Chapitre 49. Elle était Ariane, celle qui dessinait des labyrinthes identiques à ceux visibles dans les films de Meltzer. Une sans origine, avec la mémoire en miettes à cause d'un traumatisme. Et ça, ça n'était pas un hasard. Ces gens qui portaient des masques de porc avaient dû lui faire si mal qu'elle avait fui son identité. Elle ne savait pas réellement ce qui s'était passé, mais ils avaient bousillé sa vie. Ce soir, c'était la dernière ligne droite. Elle irait aussi loin qu'il le faudrait avec Théobald pour qu'il lui crache la vérité. D'après le GPS, la casse automobile de ce Jérémy Théobald était située à la périphérie de Noisy, au bout d'une zone industrielle déserte et faiblement éclairée par une rangée de lampadaires vétustes. On approchait de 22 heures. Le ciel déversait de grosses gouttes froides. À travers les essuie-glaces, Ariane repéra, derrière un mur en béton à moitié défoncé, des empilements de voitures. Elle passa devant une grille verte ébranlante, continua sur une centaine de mètres et se gara dans une rue adjacente près d'un entrepôt. Avant de quitter l'habitacle, elle vérifia son taser, en ôta la sécurité et le fourra dans la poche de son manteau. Dehors, elle rabattit sa capuche et alla ouvrir le coffre, d'où elle sortit un antivol de vélo acheté après sa visite chez le psychiatre. Elle le glissa sous son blouson, remonta le trottoir, longea une partie grillagée qui donnait sur une des extrémités de la propriété. Les piquets en fer tenaient à peine et étaient même presque à terre à certains endroits. Elle les franchit sans difficulté, mais se retrouva aussitôt devant une barrière de ronces et de végétation. Contrainte de faire demi-tour, elle tenta ensuite sa chance par un autre accès, se faufilant entre des montagnes de déchets métalliques, pataugeant dans des flaques où l'eau et la rouille se mélangeaient. Le lieu était gigantesque. Partout, elle ne voyait que des crêtes d'acier, des lacs sombres. La pluie se fracassait sur les tôles perforées et décochait des notes sinistres. Après avoir enjambé des portières tordues et des fauteuils arrachés, elle gagna le cimetière de carcasses au milieu desquels zigzaguaient parfois des ombres rapides comme l'éclair, des rats. Là, dans toutes les directions, des voitures gisaient, privées de toit, de roues, de vitres. Des barres en acier, des pointes en verre, des pièces tranchantes jaillissaient de la boue. À gauche, un palan soutenait une impressionnante boule accrochée au bout d'une chaîne. Au-delà, elle devina, dans l'obscurité, une énorme pince suspendue à 10 mètres et retenant entre ses griffes une fourgonnette écrabouillée. Elle visitait le terrain de jeu de Théobald. Elle foulait son territoire de folie. Ariane se figea quand elle perçut les aboiements d'un chien. D'où provenait-il? De l'intérieur de la casse ou du parking d'une entreprise alentour? Elle n'avait pas pensé au coup du molosse susceptible de se jeter sur elle. Elle serra dans sa paume son taser. « Usage unique », songea-t-elle. Si elle tirait sur l'animal, elle n'aurait plus rien pour affronter le maître. N'écoutant que son courage et sa colère, elle avança pourtant et discerna plus loin dans les ténèbres une timide lueur, l'antre du performeur, de cette bête abjecte qui avait barbouillé de sang le visage de Romy, lui avait fourré sa culotte dans la bouche et avait participé à son agonie. Elle se faufila aussitôt dans une allée parallèle moins large, avança en silence et marqua un arrêt lorsqu'elle distingua clairement le gros véhicule garé devant la caravane. Un pick-up noir avec une benne ouverte. Celui, à coup sûr, qu'elle avait vu circuler devant sa maison 2 nuits plus tôt. Elle n'avait pas rêvé. La horde la traquait. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne débarque chez elle. Elle ramassa un boulon qui traînait, progressa courbée jusqu'à l'habitation sommaire de Théobald, près de laquelle s'amoncelaient, dans des caisses, sur des bâches, toutes sortes d'outils, des cajots, des sacs de sable et de ciment. Protégée par la pénombre et le rideau de pluie, elle lança un regard par une vitre. L'homme était seul, assis sur une banquette, en train de dessiner ou d'écrire. Il portait un blouson en cuir sur son torse nu et tatoué. Ses piercings en forme de pointe et le maquillage autour de ses yeux le faisaient ressembler à une étrange créature hybride. Ariane respira. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était fou, dangereux, mais c'était maintenant ou jamais. Elle se plaqua contre la tôle juste à gauche de la porte, dans un angle mort, au cas où il jetterait un œil par la fenêtre, et lança le boulon sur une carcasse. Comme escompté, le fracas du métal fut suivi de pas lourds et précipités sur le plancher de la caravane, puis par un bruit de verrou qu'on ouvre. Le type apparut sur le seuil. Dans la seconde, Ariane se décala, dégaina son taser et tira. Les électrodes se plantèrent en plein sur la poitrine de Théobald sans qu'il ait pu lever le petit doigt. Il y eut alors un grésillement. La fine silhouette musclée s'effondra sur le marchepied, s'arqua, les veines de son cou se gonflèrent, ses dents se serrèrent à s'en faire exploser les mâchoires. Ariane crut qu'il allait mourir, mais le corps se détendit soudain. Elle disposait de peu de temps avant que l'influx nerveux ne se rétablisse. Elle lâcha donc son arme et entreprit de traîner la masse inerte jusqu'à l'autre bout de la caravane, au niveau de la table vissée dans le sol. Elle lui passa l'antivol autour de la gorge, fit le tour du pied et ajusta à la limite de l'étrangler. Après quoi elle s'empressa de refermer la porte. Elle était morte de trouille. Elle avait franchi le point de non-retour et, pour tenir, pour éviter de flancher, elle devait se concentrer sur Romy, Lysine, la souffrance qu'on leur avait infligée, et rien d'autre.